Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour Mondial Sport, les plus grands exploits aux quatre coins du globe, chaque week-end sur RFI. C'est une histoire qui a défrayé la chronique et qui compte parmi les plus importantes du sport africain et du sport mondial, celle de Caster Semenya. Il y a 15 ans, la championne sud-africaine déferle sur la piste de Berlin. Elle écrase le 800 mètres féminin et se retrouve embarquée à 18 ans à peine dans une véritable tempête médiatique, réglementaire, scientifique, philosophique, humaine. Caster Semenya est-elle suffisamment femme pour battre les autres femmes à la régulière? Pour les dirigeants de l'athlétisme mondial, c'est non. Et la double championne olympique, triple championne du monde, ne sera pas à Paris cet été, pas plus qu'elle n'était à Tokyo il y a 3 ans. Je résume de manière volontairement simpliste l'histoire de Caster Semenya. J'ai également fait exprès dans cette introduction d'utiliser des formules clichés, toutes faites, un peu pauvres. C'est pour mieux mettre en valeur le langage et le talent de notre invitée. Julie Bertin est metteuse en scène parce que l'histoire de Caster Semenya est un drame ou une tragédie, parce qu'elle nous fait réfléchir sur les corps, les mouvements, mais aussi sur ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a au plus profond même des êtres d'exception. Julie Bertin a fait de cette histoire une pièce de théâtre, un spectacle qui tourne en ce moment en France.
19 août 2009, Berlin, championnat du monde d'athlétisme, finale du 800 mètres femmes, couloir 4. Caster Semenya a 18 ans, elle est sud-africaine et inconnue du grand public.
Elle ne le sait pas encore, mais dans 1 minute 55 secondes et 45 centièmes, sa vie va basculer.
C'est pas une inconnue pour les auditeurs de RFI. 3 semaines, en gros, avant les championnats du monde d'athlétisme à Berlin, il y avait eu les championnats d'Afrique junior d'athlétisme qui se déroulaient à Bambou, donc sur l'île Maurice. Et notre correspondant, Abdoulaye Rally, à l'époque, nous avait raconté la performance magistrale que Caster Semenya, 18 ans seulement, avait réalisée pour gagner le titre de championne d'Afrique junior du 800 mètres dans un chrono qui était de 1 minute 56 secondes et quelques. Tout simplement, le record d'Afrique du Sud. Mais alors pas le record junior, mais le record tous âges confondus. Et aussi, fin juillet, donc déjà à un moment où la saison athlétique est bien avancée, la meilleure performance mondiale de l'année sur le 800 mètres. Donc quand elle arrive à Berlin, elle a déjà cette référence-là. Et elle gagne, mais alors elle gagne haut la main. Elle gagne avec 2 secondes et demie d'avance sur Janet Jepkosgei, taulière, la Kenyane du 800 mètres mondial à l'époque, et 2 secondes et demie d'écart, on n'a jamais vu ça. En fait, elle passe la ligne, elle exulte, elle montre ses biceps à la caméra. Quand on la regarde, quand on l'écoute, on voit une athlète qui est très carrée. Quand on l'écoute, on entend une voix qui a beaucoup, beaucoup de graves. Et les rumeurs qui ont entouré Caster Semenya dans les semaines qui ont précédé ces championnats du monde ont été relayées dans la presse. Et elle entame un tour d'honneur. Et le tour d'honneur est interrompu. Des gens de l'organisation viennent prendre, encadrer Caster Semenya. On se dit, on va la voir en zone mixte, mais elle ne passe pas, contrairement à ce qui se passe pour n'importe quelle course. Et on se dit, on va la voir à la conférence des médaillés un peu plus tard dans la soirée. Personne. Donc, on interpelle Pierre Weiss, le Français qui était secrétaire général de la Fédération internationale d'athlétisme à l'époque. Et il nous explique que la Fédération internationale, d'ailleurs la Fédération internationale avait publié un communiqué avant la finale du 800 mètres, que la Fédération internationale a demandé à la Fédération sud-africaine de démontrer que Caster Semenya était bien une femme. En fait, on apprendra plus tard que ces tests ont été menés entre les championnats d'Afrique junior et les championnats du monde à Berlin. Début septembre, il y a un entraîneur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud qui démissionnera en expliquant que des tests de féminité donc, ont été menés sur Caster Semenya sans qu'on lui explique d'ailleurs le but de ces tests. Et pour lui, Wilfred Daniels disait que c'était un traitement absolument révoltant. Et c'est le début d'une énorme émotion autour de cette jeune athlète qui, encore une fois, n'avait que 18 ans à l'époque.
Tout commence donc à Berlin. Les mondiaux d'athlétisme 2009, la finale du 800 mètres, la course recrée dans le spectacle Libre Arbitre. coécrit par Julie Bertin et Léa Girardet, mise en scène par Julie Bertin. Julie Bertin qui est avec nous. Bonjour Julie Bertin.
Bonjour.
Des extraits de la pièce mélangés aux mots d'autres journalistes, c'est ce qu'on vient d'entendre, les commentaires télé de l'époque, ce sont ceux que vous reprenez dans votre mise en scène de Libre Arbitre, et le témoignage de l'envoyé spécial de RFI ce soir-là à Berlin, Christophe Jousset. Les mots des journalistes, comment vous les prenez en tant qu'autrice de théâtre, metteuse en scène? C'est une influence ou vous avez une sorte de défiance? Vous voulez souligner une sorte de différence?
Je dirais d'abord que dans mon métier en tant qu'autrice de théâtre et metteuse en scène, c'est avant tout un matériau qui est donc absolument pas théâtral de prime abord. Et tout notre enjeu avec Léa, c'était justement de voir comment on allait en faire du théâtre. Donc la parole journalistique et son analyse, son champ lexical, encore une fois, je l'appréhende comme un matériau parmi tant d'autres. Après, ce qui est intéressant là dans cette affaire, qui s'étend donc sur plus de 10 ans dans le spectacle, on va de 2009 avec cette fameuse course à Berlin et on va jusqu'en 2019 quand Caster Semenya porte plainte et saisit
le TAS. On va résumer son parcours dans quelques instants.
Voilà, le tribunal arbitral du sport. Donc, notre histoire à nous s'étend sur 10 ans. Et c'est intéressant justement de constater comme dans la presse, justement, les journalistes ou la parole journalistique, en tout cas, évolue dans sa manière de parler de Caster Semenya, dans le vocabulaire aussi médical qui est employé, évidemment, et heureusement d'ailleurs qu'on ne parle pas d'elle en 2009 comme on en parle aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir que c'est aussi une langue, une analyse qui est mouvante, qui n'est pas figée, et c'est plutôt très rassurant.
Caster Semenya, elle n'est pas qu'un personnage de théâtre, c'est aussi une héroïne réelle, celle d'un peuple, d'un pays, l'Afrique du Sud. Claire Bargelès, notre correspondante sur place, c'était également avec nous dans Mondial Sport. Bonjour Claire.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
L'histoire de Caster Semenya, vous la connaissez très bien, vous l'avez régulièrement suivie et relatée sur RFI. Est-ce que vous pouvez, Claire, nous faire un petit résumé pour qu'on puisse parler encore davantage de la mise en scène sur les planches de cette histoire par Julie Bertin?
Oui, eh bien, vous l'avez déjà évoqué, tout bascule pour elle en 2009 lors des Mondiaux de Berlin et avec la tempête médiatique qui lui tombe dessus et qui ne s'arrêtera plus. Et par la suite, elle sera donc autorisée à continuer à courir, mais elle doit suivre un traitement pour faire baisser ce taux de testostérone naturellement plus élevé chez elle que chez la moyenne des femmes. Et ce traitement a beaucoup d'effets secondaires. Donc, elle vit ensuite une période très dure où elle doit continuer à s'entraîner avec tous ces effets. Elle parvient quand même à revenir sur la scène internationale et à devenir championne olympique sur 800 mètres, sa discipline fétiche, à Londres en 2012. Et ensuite, le tribunal arbitral du sport suspend le règlement de la fédération et elle peut à nouveau courir sans traitement et remporter une nouvelle fois les JO, cette fois-ci à Rio en 2016. Mais les Mondiaux de Londres l'année suivante, où elle arrache encore une fois l'or, seront ces derniers. Après un nouveau changement de règles, des règles qui sont devenues encore plus strictes pour elle, elle refuse cette fois-ci de prendre des traitements hormonaux pour faire baisser son de testostérone et elle doit donc renoncer aux compétitions. Mais elle commence alors une autre course, si on peut dire, loin des pistes, celle devant les tribunaux pour contester tous ces règlements. Si sur le plan sportif, le tribunal arbitral du sport et la justice suisse ont finalement donné raison à la Fédération d'athlétisme, la Cour européenne des droits de l'homme s'est pour sa part prononcée en faveur de Caster Semenya. Et aujourd'hui, à 33 ans, son combat n'est pas terminé puisqu'elle cherchait encore tout récemment des fonds. Elle a fait un appel dans le pays pour continuer à faire entendre ses arguments devant la justice lors d'une audience en appel en mai à la demande de la Fédération.
Julie Bertin, vous opiniez du chef en écoutant Claire Bargelès. A priori, pas grand-chose à rajouter. Elle a vécu avec vous cette histoire de Caster Semenya. Maintenant, vous en connaissez tous les aspects.
Oh, je n'aurais pas cette prétention-là. Non, pas du tout. Mais,
alors, qu'est-ce qui vous a intéressé? On va poser la question autrement.
C'est une histoire qui nous suit avec toute l'équipe depuis donc un petit moment maintenant. Pourquoi on a eu envie de s'emparer de cette histoire que, je dois avouer, on ne connaissait pas ou très peu il y a encore quelques années. Et c'est donc avec Léa Girardet, avec qui on avait déjà fait une première pièce qui traitait déjà du lien qu'on pouvait faire entre le sport, le théâtre et le féminisme, en tout cas la question du corps féminin et de sa domination dans la société et là plus précisément dans le milieu sportif. Donc on lisait différents ouvrages et on est tombé sur un livre qui a été majeur pour nous, qui est un livre de la socio-historienne Anaïs Bouhon qui s'appelle « Les tests de féminité, catégorie d'âme ». Et Anaïs s'est intéressée de très près à l'affaire Caster-Semenya, entre autres. Et c'est vrai que quand on a découvert non seulement l'existence des tests de féminité, parce qu'avec Léa, très naïvement, on pensait que c'était une pratique qui appartenait à la guerre froide et que ça faisait bien longtemps qu'on avait arrêté de faire ce genre de pratique, d'examen, de vérification de genre, en fait. C'est comme ça qu'on les appelle aussi dans le milieu sportif. Donc, on découvre l'existence de ces tests de féminité. Et bien entendu, on découvre donc toute l'histoire de Caster-Semenya qui nous touche, nous révolte. Enfin, c'est des sentiments très, très mêlés qui nous habitent à ce moment-là. Et puis, évidemment, on se met à se documenter. On regarde évidemment les courses de Caster et cette course de 2009 qui, vous le disiez en introduction, est absolument incroyable, fascinante. C'est-à-dire que c'est une athlète de 18 ans incroyablement talentueuse. Et pourtant, voilà, avec Léa, on n'est pas on n'est pas sportive. On a juste un intérêt pour ces questions-là, qui sont aussi des questions, on en parlera sûrement, des questions politiques. Ce qui nous a intéressé, c'est ça, c'est pourquoi on en fait une affaire. Pourquoi Caster-Semenya doit passer ses tests de féminité? Pourquoi, sur un simple doute visuel, la Fédération internationale d'athlétisme, qui est composé à 95% d'hommes blancs issus des pays du Nord, parce que ces trois choses sont importantes, pourquoi ces hommes-là décident de qui est une femme ou qui ne l'est pas, ou qui semble suspecte. Puisque c'est ça. En gros, ils disent, et Pierre Weiss le dit dans sa conférence de presse à l'issue des championnats du monde en 2009, il dit « On n'est pas sûr que Caster-Semenya soit une femme à 100%. » Mais vous vous rendez compte quand même de cette phrase. C'est quand même, là, on dit, aux yeux du monde entier, Caster-Semenya est peut-être une tricheuse. Caster-Semenya n'est peut-être pas une femme ou pas à 100%. Et c'est peut-être en fait un homme qui se cache dans ce corps-là. Et c'est d'ailleurs, on le raconte dans le spectacle, elle a à peine fini la course, elle entame effectivement...
C'est ce que disait Christophe Jousset.
Mais voilà, elle commence à peine à célébrer sa victoire, elle porte son drapeau, elle commence à défiler, et en fait, un journaliste s'approche d'elle et lui dit « Mais Caster-Semenya, il paraît qu'à la naissance, vous étiez un garçon. » C'est une des premières phrases qu'elle entend, c'est-à-dire qu'on lui vole sa victoire, on suspend sa médaille d'or, on l'interdit de conférence de presse, et voilà. Et donc, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça raconte, tout ça? Qu'est-ce que ça raconte, évidemment, du milieu sportif, des instances sportives, et plus largement, de comment on considère le corps des femmes?
On continue à en parler tout de suite dans Mondial Sport. Mais d'abord, musique. Girl, you a winner from start. That you feel no respect for your body. Everybody wants you. Do it from the yard. Put on a show. With the bang, bang, bang. Y'all bend over and take it. When you bubble out, put me in a trouble. Give me the greatest. Keep doing non-stop. Y'all wibble and wobble. Stick to the top, don't tipple, don't topple. Press gas, girl, don't ease upon the chuckle. Bubble and brace it. Drip, drop, tip, tap. You can't beat any muggle. She want a man with the stamina, if you give her the bummy. Now she don't get the Outland car and bunny. Now she walk with the bummy. Now she want get the jockey. And she have a little rebel instinct, wild animal. On the street, she a give me the subliminal. Ready for the sheet, she delete every other man. Strong, she no weak, the physique is phenomenal. Go on, bubble and bend over and take it. When you bubble out, put me in a trouble. Give me the greatest. Keep doing non-stop, y'all wibble and wobble. Stick to the tack, don't tipple, don't. Yes, girl, don't ease upon the chuckle. Bubble and brace it. Trip, drop, tip, tap, you can't beat any muggle. She want a man for size her, hypnotize her, capsize her and hypnotize her. Try surprise her and tantalize her. Champion rider, we get inside her. Cause she no wanna waste man beside her. She no wanna be a tell them avoid her. Top tier, she a win it by far. She set the high bar. Y'all bend over and take it. When you bubble out, put me in a trouble. Give me the greatest. Keep doing non-stop, y'all wibble and wobble. Stick to the top, don't tipple, don't topple. Press gas, girl, don't ease upon the chuckle. Bubble and brace it. Drip, drop, tip, tap, you can't beat any muggle. Sean Paul, Greatest, dans Mondial Sport sur RFI. Je parlais en introduction de tragédie. Il y a aussi des moments de comédie dans le spectacle Libre Arbitre, donc consacré à Caster Semenya. Les grands genres du théâtre, tragédie, comédie, sont apparus, comme l'athlétisme et les Jeux Olympiques, après tout, dans la Grèce antique.
Un mythe antique raconte que l'humanité était initialement composée d'êtres parfaits. Ils étaient ronds comme des astres. Chacun d'entre eux était double.
Il existait alors trois catégories d'êtres humains, les hommes, les femmes, qui descendaient de la terre, et les androgynes, qui descendaient de la lune.
Ces êtres, dotés d'une vigueur prodigieuse, voulurent partir à l'assaut du ciel et défier les dieux. Voyant l'ordre du monde sur le point d'être bouleversé, Zeus décida de foudroyer les parfaits. Avec son éclair, il les coupa en deux, les obligeant ainsi à marcher sur deux jambes et à chercher éternellement leur moitié disparue. S'ils persistaient dans leur arrogance, Zeus les couperait à nouveau en deux, les obligeant alors à marcher à cloche-pied.
C'est ainsi que les dieux conservèrent leur puissance. Ils régnaient désormais sur cette nouvelle espèce humaine affaiblie, réduite aux deux seules catégories que nous connaissons encore aujourd'hui, les hommes et les femmes.
Et puis il y a les mythes dans l'Antiquité grecque, celui de l'androgyne. Ouvre votre spectacle, Julie Bertin. À travers ce mythe, quelque part, on s'emparait déjà de la question de l'identité sexuelle non-binaire, intersexe, pourrait-on dire. C'est un mot qu'on a entendu, en tout cas dans le cas de Caster Semenya, une athlète dite androgène, l'autre mot clé, si je puis dire. Une femme, donc, on l'a dit, qui sécrète plus de testostérone que les autres femmes en moyenne. Testostérone, une hormone dite masculine, parce que très présente chez les hommes. Caster Semenya, avec ce patronage antique, là, comme ça, qui ouvre votre spectacle, vous en avez fait une héroïne tragique, victime des dieux de l'I2F, hein, c'est l'ancien nom de la Fédération internationale d'athlétisme, et victime plus tard, et peut-être d'où le titre, des arbitres, ceux du tribunal arbitral du sport, un peu l'Olympe de la justice sportive.
Effectivement, pour nous, il fallait, c'était intéressant dans l'écriture et puis dans la mise en scène de donner du relief aussi à cette histoire et là un éclairage plus mythologique. Caster Semenya est, oui, selon nous, victime effectivement de ces instances et de leur injustice. Et effectivement, il y avait un parallèle alors qu'on n'appuie pas dans le spectacle, mais que le spectateur décide de faire ou pas, un parallèle entre Zeus, là, qui, effectivement, dans le mythe, voit les androgynes comme une menace à un ordre établi. Et là, on pourrait effectivement dire aussi que les experts de la fédération se sentent menacés par les performances sportives de ces athlètes dites intersexes. Je crois aussi que c'était une manière, pas tant de la présenter comme une victime. Évidemment, il est question de ces injustices, et notamment dans la dernière partie du spectacle, on parle du procès. Mais raconter aussi la puissance de Caster Semenya et en quoi ce qu'elle fait, et ensuite ses prises de décision, comme le fait de refuser de prendre le traitement hormonal, comme le fait aussi ensuite de porter plainte, de saisir le TAS, le fait aussi d'assumer son homosexualité dans un milieu sportif qui où finalement peu d'athlètes font leur coming out, parce qu'on le sait bien, il y a une pression des sponsors, donc c'est finalement encore une chose très rare. Et donc tout ça pour aussi montrer à quel point Caster Semenya, oui, est puissante et dangereuse, et vient bousculer encore une fois un ordre établi et un ordre finalement assez conservateur.
Alors, puisque vous la mettez en valeur quelque part, mais vous la faites parler, c'est du théâtre, vous la mettez en scène, notamment lorsqu'elle se fait examiner. Le mot est faible.
Le département sciences et santé m'a chargé de vous examiner dans le cadre du protocole de vérification de genre.
Pouvez-vous me confirmer votre nom, prénom, date de naissance ?
Caster Semenya, 7 janvier 91, Petersburg.
Date des premières règles ?
16 ans, je crois.
Vous croyez ? Ou vous êtes sûr ?
Oui, j'en suis sûr.
Les cycles sont-ils réguliers ?
De quoi ?
Très bien. Je note aménorrhée primaire.
Ça veut dire quoi ?
Que vous êtes déréglée. Normalement, les premières menstruations arrivent au cours de la puberté. Aujourd'hui, vous avez 18 ans, il y a peu de chances qu'elles arrivent naturellement. Il ne faut plus me mentir, d'accord ? Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec acte de pénétration ?
Vous avez déjà été attirée par une femme ?
Pourquoi vous me demandez ça?
Alors aujourd'hui, nous parlons plutôt de femmes atteintes d'un désordre de développement sexuel. Ce terme désigne les différentes maladies ou malformations qui entraînent la présence de caractères sexuels masculins et féminins chez un même individu.
Vous voulez un verre d'eau?
Ça se soigne?
Ah oui, en Europe, ça se soigne très bien. Mais malheureusement, certains pays, comme l'Afrique du Sud, ne disposent pas des moyens matériels nécessaires pour détecter et traiter ce genre d'anomalie.
Parce qu'il y a des médicaments pour ça.
Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Là, oui, il en existe de nombreux. La plupart du temps, on effectue des opérations de normalisation à la naissance. On évite ainsi une confusion du développement physique et psychologique à l'âge adulte.
Est-ce que votre poitrine s'est développée naturellement au cours de la puberté?
Très peu.
Vous pouvez soulever votre sweatshirt, s'il vous plaît.
Mon corps en libre service. Alors, Caster, on va redessiner tout ça. On pourrait commencer par une ablation du clitoris. Il est beaucoup trop long, ça n'a aucun sens. Et ces testicules internes, à quoi ça vous sert? Rien du tout. Allez, hop! Faites confiance à nos médecins, ils manient le scalpel à merveille. Caster, vous êtes lesbienne. Merci de vous vernir les ongles et de vous laisser pousser les cheveux. Le dieu testostérone vous a peut-être pas encore avalé tout entière. Jésus, Marie, Joseph. Amen. Gloire à toi, sainte fédération de la course à pied, à tes apôtres, les experts et tes disciples, les chirurgiens.
Ils disent que je suis indéterminée. Et si je m'étais trompée toute ma vie? Je veux dire, est-ce que je suis une vraie femme?
Le monologue, comme dans une vraie tragédie de l'héroïne. Auparavant, on assiste à une séance d'interrogatoire, d'humiliation, de dissection dégradante. Bon, il y a une part d'invention. Vous n'étiez pas là quand on a commencé à inspecter comme ça le corps de Caster Semenya. Mais là, on est vraiment dans un point pivot de votre spectacle. Elle est au milieu de la scène et presque en train de subir une séance de torture plutôt qu'une séance médicale.
Oui, 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 entourée effectivement de trois médecins, une psychologue, un endocrinologue et une gynécologue, puisque donc on a essayé de comprendre durant nos longues semaines de recherche avec Léa, où on a essayé de comprendre donc en quoi consistaient ces examens de vérification de genre, et on a très vite compris que donc il y avait toute une, effectivement, une batterie d'examens, comme on dirait, et qui sont très intrusifs évidemment, qui sont extrêmement violents, il faut le rappeler. Caster Semenya a 18 ans quand tout ça lui tombe dessus. On lui dit que, on lui parle d'hermaphrodisme, on lui dit que donc ce n'est peut-être pas une femme à 100%, qu'elle est peut-être biologiquement un homme. En tout cas, on lui tient un discours pathologisant où on lui dit qu'elle est malade et que donc il va falloir effectivement l'examiner, l'ausculter. Donc on a mené des entretiens avec Léa, donc avec des gynécologues, des endocrinologues, pour essayer justement de savoir quel était le contenu de ces entretiens, puisque dans nos recherches, on n'arrivait pas à trouver d'informations à ce sujet, bien que malheureusement, le secret médical a été trop souvent violé en ce qui concerne Caster Semenya. Mais en tout cas, là, voilà, on s'est renseigné auprès de médecins et c'est comme ça que s'est construit l'écriture de la scène.
Claire Bargelès, effectivement, je voulais que vous reveniez sur ça. Vous avez bien fait de vous signaler. Caster Semenya, qui voit son corps ausculté par le monde entier, elle a 18 ans et elle vient de loin. Elle a parcouru beaucoup plus que 800 mètres pour arriver dans ce point douloureux de sa trajectoire. J'imagine que c'est sur ses origines que vous voulez revenir.
Oui, tout à fait. Et en fait, on a un peu plus d'informations depuis qu'elle a sorti son autobiographie en anglais en octobre dernier. Et elle raconte pour la première fois le choc de ce test de féminité, comme il l'appelle. Et c'est, en fait, ça recoupe très bien ce qui est raconté dans la pièce, puisqu'elle raconte ça de façon assez crue pour un peu expliquer la violence vécue alors qu'elle avait que 18 ans et qu'il faut comprendre aussi le contexte culturel. Elle vient du Limpopo, donc une région rurale. Et à l'époque, la question de connaître son statut médical ne s'est jamais posée. Elle a toujours été élevée en sachant qu'elle était une fille avec des différences. Et elle n'avait jamais encore été examinée par un gynécologue. Donc traditionnellement, en Afrique du Sud, dans ces régions plus traditionnelles, on ne parle pas de ces choses-là, et encore moins avec des hommes plus âgés. Donc on peut vraiment imaginer le traumatisme de ces tests et de voir en plus ensuite ces résultats médicaux fuiter dans la presse et être exposés dans le monde entier et voir son identité être remise en question sans avoir la main dessus et sans vraiment avoir la parole pour reprendre son histoire. Donc c'est assez intéressant comment son témoignage dans son autobiographie, recroise totalement ce qui est raconté dans la pièce de théâtre.
Caster Semenya sur les planches. On continue à parler de libre arbitre dans Mondial Sport, le spectacle de Julie Bertin consacré à la championne empêchée, Caster Semenya.
Mondial Sport.
En attendant, un point sur l'actualité sportive de ce samedi 30 mars. Sofiane Amazian du service des sports de RFI m'a rejoint. Bonjour Sofiane.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
On commence avec le football. C'est le retour des Coupes d'Afrique de clubs ce week-end. Les quarts de finale aller et le résultat du TP Mazembe, vous allez nous le livrer.
Mais c'est peut-être pas une surprise, 0-0. Je ne sais pas si vous l'aviez coché ce résultat, Hugo. Le TP Mazembe tenu en échec.
En douceur, alors,
complètement. Très, très, très en douceur. Un match dominé par les Corbeaux. Très, très imprécis offensivement. Il faut savoir que le Petro n'a pas encaissé encore un seul but dans cette phase finale de Ligue des Champions. Donc toujours 0 but encaissé pour les Angolais. La tâche sera compliquée au match retour. Mais voilà, 0-0 pour ce premier quart de finale des Corbeaux depuis 2020, on le rappelle.
On va passer à l'actualité du ballon rond, mais sur le vieux continent, en Europe. Et si on commençait par l'Angleterre, la Première Ligue, 30e journée, c'est ce qu'on dispute ce week-end. Quelques résultats à nous donner, Sofiane?
Avec d'abord le match de l'année. Bon, c'est vrai que le TP, c'était pas le match le plus riche en buts. Par contre, celui-là, je vous préviens, il faut le regarder. 4-3, victoire de Newcastle face à West Ham. Le héros de la rencontre, c'est un Anglais, c'est Harvey Barnes qui a remis Newcastle sur les rails, puisque West Ham menait 3-1. On rappelle juste le but de l'international ghanéen Mohamed Kudus qui marche sur l'eau avec West Ham. Donc victoire 4-3 de Newcastle qui reste 8e et qui revient à un point de West Ham qui est pour l'instant 7e. Je vous donne deux résultats rapides en Angleterre, Hugo. Chelsea tenu en échec face à Burnley, 1-0. Tottenham qui est 5e du championnat également tenu en échec face à Luton, 17e, 1-0. Ça c'est en Angleterre.
Week-end intéressant en Allemagne également, 27e journée de Bundesliga, et on a failli avant le classiqueur tout à l'heure, Bayern Dortmund, qui est un événement, on a failli assister à un autre événement, la première défaite du Bayer Leverkusen. Ouf, les hommes de Xabi Alonso ont évité, non pas le ridicule, parce que de toute manière, ça n'aurait pas été ridicule.
Ils sont loin du ridicule, c'est sûr.
Au contraire, il continue à marcher sur l'eau.
Bon, on est sur un scénario classique, finalement, de Leverkusen. Leverkusen menait au score, puis dans les derniers instants, reviennent, puis marquent le but de la victoire. C'est ce qui s'est passé face à Hoffenheim. Un but de la victoire marqué à la 97e minute. Ça fait 13 points d'avance provisoirement pour les hommes de Xabi Alonso en tête du championnat d'Allemagne. Avant ce classiqueur à 17h30, entre le Bayern Munich qui est deuxième et le Borussia Dortmund.
Et dans le reste de l'Europe, si je puis dire, le reste des championnats européens, vous avez quelques informations à nous donner.
On va commencer par l'Hexagone quand même, Hugo. A noté simplement, pour l'instant on s'approche de la mi-temps de ce match entre Metz et Monaco. Le club de la Principauté mène déjà 3-0 face au Lorrain. Ça c'est en France. Je peux vous donner aussi un résultat en Italie.
Allez.
Naples, vous vous souvenez de Naples, c'est le champion italien la saison dernière,
entraîné par Rudy Garcia ensuite,
et puis pléthore d'entraîneurs par la suite. Enfin, c'est très très compliqué cette saison, on l'avait déjà dit sur nos antennes. Nouvelle défaite, une claque face à l'Atalanta Bergame, 3-0. C'est très compliqué pour Naples cette saison.
Il n'y a pas que du foot dans l'actualité de ce samedi, du basket également. C'était plutôt cette nuit, mais le plus beau match de la jeune carrière d'un certain Wembanyama.
Et avec 40 points, 20 rebonds, c'est deux records pour le géant français de 2m24. Des actions décisives qui ont permis aux Spurs de venir à bout des New York Knicks après prolongation. Est-ce que c'était le meilleur match de Wembanyama? Théo Quintard lui a posé la question.
Alors là, on va c'était pas entendre Wembanyama, ça c'est pour tout de suite, c'est la suite de notre
bon, en tout cas,
discussion.
Il était content,
sur libre
il était
arbitre,
très content.
Le spectacle de Julie Bertin, notre invité, Wembanyama, qui j'imagine était content de son match record. Merci beaucoup,
je
Sofiane Amazian, pour ce point sur l'actualité sportive de ce samedi 30 mars. On va continuer à parler du drame de Caster Semenya, la coureuse, la championne sud-africaine. Le drame adapté sur les planches dans la pièce Libre arbitre de Julie Bertin, qui est notre invitée sur RFI dans Mondial Sport.
Ah, bonjour les scientifiques, Gianni Ramondi, et je suis le nouveau chargé de com' de la Fédé. Cette affaire Caster Semenya, c'est quelque chose, hein. C'est une catastrophe. La Fédération d'Afrique du Sud menace de nous traduire en justice, premier problème. Deuxième problème, je le sens gros comme une maison,
On va se faire accuser de racisme dans cette histoire. Dès que tu touches à une athlète noire, tu peux pas y jouer.
Aïe, aïe, aïe.
Troisième problème, les journalistes nous reprochent d'avoir écarté Caster Semenya de la conférence de presse des vainqueurs après sa victoire.
Eh oui, d'ailleurs, je sais pas qui est la boutique qui a pris cette décision, mais alors vraiment, c'était pas un génie de la com, hein.
C'est moi, Gianni, qui ai pris cette décision.
Il faut faire très attention aux mots que l'on choisit. Il faut toujours vous imaginer que vous avez une petite féministe sur l'épaule qui vous guette. Et si vous ne dites pas le bon mot, elle vous fout un coup de tatane. Et nous, on ne veut pas la tatane.
Tu es sur ton nuage et tu diriges le monde. Il faut qu'on t'érige des totems. Il faut qu'on te fasse des offrandes. Il faut qu'on s'agenouille. On le trouvera où? Le travail? Quand tout le monde aura compris qu'on est des escrocs.
Mais j'en ai rien à foutre. T'as pas compris qu'on était intouchables?
Oh, on est intouchables.
On est intouchables. Yona, c'est un organisme privé. On n'est pas sous la tutelle de l'ONU.
Mais tais-toi! Tais-toi!
Les dieux de l'Olympe, non. Des hommes de l'ombre de l'I2F, aujourd'hui World Athletics, autrement dit la Fédération Internationale d'Athlétisme. Après Berlin 2009 et le début de l'affaire Semenya, et puis on les entend quelques années plus tard, au moment où ils cherchent une réglementation sur le taux de testostérone des athlètes androgènes, obligés de prendre un traitement très lourd pour pouvoir s'aligner sur certaines distances, dont le 800 mètres fétiche de Caster Semenya. Eux-mêmes, ces dirigeants, ces hommes de l'ombre, se désignent, on l'a entendu, comme des dieux, des entités intouchables. Non, sans une certaine bouffonnerie, Julie Bertin, je parlais de tragédie. Il y a donc aussi des moments de comédie très noirs dans votre spectacle Libre Arbitre, en coulisses, dans les instances sportives.
Oui, alors il faut préciser que dans cette pièce de théâtre, il y a donc quatre comédiennes. Léa Girardet, donc avec qui j'ai écrit cette pièce, Cléa Lézé, Julie Teuf et Juliette Speck qu'on entend là dans les extraits et qui maintenant a passé son rôle à Kadiatou Camara. Quatre comédiennes donc qui jouent ces quatre experts de la fédération. Et c'était important pour nous, vous parliez là du décalage clownesque, burlesque. C'est vrai que c'était important de mettre en scène quatre femmes qui jouent des hommes, qui eux-mêmes décident de ce qu'est une femme ou non. Et donc évidemment, dans ce décalage-là, parce qu'on a travaillé justement à, évidemment, s'est inspiré déjà d'une part de personnages réels existants. Donc on a pu lire des interviews de différents membres de la fédération. Et ensuite, on a décidé d'en faire des archétypes, donc de montrer aussi quatre types de masculinité sur le plateau. Et c'est dans cet écart, encore une fois, comique, qu'on voit quatre femmes sur scène se réapproprier ces codes de la masculinité, se réapproprier aussi et détourner des paroles qui sont sexistes, qui sont racistes, discriminantes. Donc toutes ces paroles dont on a été plus ou moins directement, en tout cas, confrontées dans nos vies en tant que femmes. Et là, évidemment, il s'agissait de remettre en jeu ce qui a pu avoir lieu dans le cas de Caster Semenya. Donc oui, il y a aussi des scènes qui sont comiques, mais je dirais que c'est un rire grinçant.
Ah oui, c'est très grinçant, comédie noire, comme je disais. Il y a aussi une partie très documentée, voire documentaire dans votre spectacle. L'une des dernières étapes du chemin de croix procédurier de Caster Semenya, celle qui a mis un terme finalement à sa carrière pour l'instant. 2019, elle conteste devant le TAS les règlements mis en place par la Fédération Internationale d'Athlétisme visant les athlètes androgènes.
18 février 2019, nous sommes au tribunal arbitral du sport.
La parole est maintenant donnée à la partie plaignante. Les avocats de Caster Semenya appellent à témoigner un panel d'experts scientifiques.
Nous sommes au début du troisième jour.
Nous avons eu accès au compte-rendu du procès, dont nous allons rejouer une partie devant vous.
Docteur, vous faites partie de l'équipe médicale qui a tenté de reproduire les études scientifiques sur lesquelles la fédération a fondé son règlement. Quelles ont été vos conclusions ?
Notre étude démontre qu'il n'y a aucune relation de causalité significative entre les niveaux de testostérone endogène et les niveaux de performance athlétique. Et je précise qu'il faut bien distinguer la testostérone endogène, présente naturellement dans l'organisme, de la testostérone de synthèse, présente dans les produits dopants. La testostérone endogène n'est pas une potion magique. Il faut se sortir ça de la tête.
Docteur Lewis, la défense de l'IAS repose sur deux points principaux. La protection des athlètes féminines et l'égalité sur la ligne de départ. Docteur Lewis, vous êtes généticien.
La protection des femmes et l'équité sportive constituent un très bon plan de communication, rien de plus. Le sport n'est pas juste. Les athlètes de haut niveau sont des êtres hors normes. des demi-dieux, en quelque sorte. Et la compétition sportive consiste justement à promouvoir celui ou celle qui surpasse les autres.
Les athlètes de haut niveau sont donc des personnes qui ont des dons naturels, comme par exemple des avantages génétiques?
Exactement. Si nous régulons la testostérone, alors nous devons réguler tous les autres avantages génétiques. La taille des athlètes, la longueur de leurs bras, de leurs jambes, et ainsi de suite. En natation, par exemple, personne ne trouve injuste l'avantage physique et physiologique de Michael Phelps, qui a non seulement la particularité d'avoir de très grands pieds, il chausse du 49,5. Alors, pour vous donner une idée, c'est la taille de mon avant-bras. Mais aussi celle de produire moins d'acide lactique que la moyenne des autres hommes, et donc de récupérer plus rapidement après un effort physique intense. Discriminer les athlètes intersexes n'est donc scientifiquement pas fondé et semble tout à fait arbitraire.
Madame Mogadi Castor Semenya.
Pendant près de 10 ans, la fédération a scruté mon corps. Les hauts dirigeants du sport ont décidé de diminuer mes qualités peu communes en m'infligeant un traitement pour modifier la personne que j'étais. Je ne suis pas effrayée d'être différente. Je suis effrayée qu'on s'acharne à vouloir me faire ressembler à tout le monde. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme.
Tout ce qu'on vient d'entendre, Julie Bertin, ça a été vraiment prononcé. Pas en français, du coup, il y a un travail de traduction. Mais là, il n'y a pas d'invention dans les paroles que vous prêtez au personnage.
C'est ça. Cette dernière partie du spectacle qui est donc consacrée au procès, on a traduit le compte-rendu qu'on a trouvé sur le site du tribunal arbitral du sport. Compte-rendu qui est évidemment très long. Donc, il y a un travail de traduction, il y a un travail de montage, évidemment, il faut le dire. Ce qu'on entend là, ça a parfois été reformulé pour des questions aussi... comment dire, c'est un vocabulaire qui parfois est très technique, très médical. Donc, il fallait que ça reste audible pour les spectateurs.
Et quel était l'intérêt pour vous de mettre en place, mettre en scène plutôt une parole réelle? C'était justement pour pouvoir transmettre ces vérités scientifiques, en tout cas les points de vue des experts qui venaient défendre Semenya et qui venaient tordre le cou à certains clichés, comme la fameuse testostérone qui en faisait forcément une athlète trop forte pour les autres et donc une athlète inéquitable, voire quasiment dopée naturellement.
Oui.
C'était important pour vous de présenter ça?
Oui, je crois qu'il y avait, de ça, c'est-à-dire de pouvoir tordre le cou à certains arguments qui auraient pu dire « Non mais ça, c'est du théâtre, ça c'est de la fiction, ça... »
C'est un parti pris,
vous décidez de défendre Castor Semenya, mais la vérité scientifique est là. Il se trouve que dans cette histoire, ce qui est passionnant, et donc quand on se plonge dans le compte-rendu du procès, on le constate, le corps médical et le corps scientifique lui-même est divisé sur cette histoire. C'est-à-dire que certains disent la testostérone avantage nécessairement les athlètes, c'est-à-dire qu'a une influence sur les performances sportives. D'autres médecins disent... Le lien de causalité n'est pas si évident à prouver. Alors, en plus de ça, la fédération a falsifié certaines études pour pouvoir forcer donc le règlement. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, c'est passionnant de voir comme, encore une fois, les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord sur comment considérer ces athlètes hyperandrogènes. Certains disent il y a des différences de taux de testostérone entre deux hommes, entre deux athlètes, et on n'en fait jamais cas. Pourquoi là on considère le cas de Castor Semenya, qui certes a un taux de testostérone plus élevé que la moyenne des autres femmes, mais alors quoi? Cet écart est forcément le signe d'une anomalie, le signe d'une pathologie? Certains médecins disent oui, d'autres disent non, et c'est ceux qu'on entend justement lors du procès de Castor Semenya qui viennent plaider en faveur de Castor.
Et on entend le témoignage de Castor Semenya, donc les vraies paroles de la fausse, entre guillemets, Semenya, celle qui est interprétée par une actrice. Il y a quelques mois, Claire Bargelès, vous êtes encore avec nous, notre correspondante en Afrique du Sud, vous aviez réalisé un reportage pour Mondial Sport consacré à la sortie de l'autobiographie dont vous parliez tout à l'heure de Castor Semenya, The Race to Be Myself, la course pour être moi-même. Vous aviez assisté pour l'occasion à une présentation publique de ce livre par son autrice en personne, donc Semenya par Semenya, cette fois.
On questionne toujours les femmes quand elles sont excellentes dans le sport. Lorsque des hommes sont nés avec des différences, ils sont phénoménaux, on les célèbre. Les femmes, surtout celles à la peau brune, représentent-elles un problème? J'avais 18 ans lorsqu'on m'a demandé de passer les premiers tests. Et c'est difficile en tant qu'individu, surtout après avoir grandi, sans jamais avoir entendu parler de termes comme intersexe ou différence de développement sexuel. On commence à se poser des questions sur soi. mais j'ai jamais été perdue, j'ai toujours été moi-même. Je sais que je suis une femme, mais je sais aussi que je suis une femme avec des différences. Et lorsqu'on m'a fait ouvrir les jambes et qu'ils n'ont vu qu'un terrain tout plat, eh ben, tu finis par les regarder dans les yeux en demandant « Mais vous vous attendiez à trouver autre chose ?»
Elle aurait été pas mal, Semenya, sur un seul en scène, en train de raconter son histoire.
Pourquoi pas ?
Julie Bertin, elle a de la présence et de l'humour. Vous vous souvenez de ce moment, Claire Bargelès, devant un public, Caster Semenya, à ce moment-là, acquis à sa cause, et globalement, acquis à sa cause en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut la voir comme une idole nationale dans ce pays, à l'histoire si particulière, à la diversité si particulière, la différence entre guillemets de Caster Semenya, elle fait l'unanimité en Afrique du Sud.
Oui, et puis elle est surtout vue en fait comme la championne olympique qu'elle est finalement, et on l'oublie un peu parfois, qui a permis à l'Afrique du Sud de remporter des victoires, une héroïne bien réelle ici et pas seulement mythique, qui a été rejetée par le monde occidental parce que son cas a été pas mal politisé ici. On a des figures comme Winnie Mandela à l'époque, Julius Malema qui sont saisis de l'affaire pour critiquer et blâmer l'impérialisme des pays occidentaux. Mais on l'aura compris, son aura dépasse largement le monde du sport et politique. Elle est devenue un peu une superstar quand elle sort en public, comme là à Johannesburg. Et elle est aussi devenue une égérie pour la communauté LGBT, puisqu'on l'a évoqué, elle parle publiquement de sa relation avec sa femme Violette, et ses exploits sportifs pour le pays, finalement, la protègent un peu des commentaires homophobes. Et elle prouve jour après jour que finalement cette ligne de démarcation entre hommes et femmes est assez fluide, et donc elle veut être une sorte d'inspiration. Pour résumer, on peut dire qu'elle n'hésite plus à acclamer sa différence, et c'est ça qui plaît. Et elle porte fièrement son premier nom, Moradi, elle le rappelle assez régulièrement, ce qui veut dire en langue pédi « celle qui guide ».
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts.
Serveuse dans le diner à coups des pommes motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match du baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse. Scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout et vous vous êtes là. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. C'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Signé MC Solar, le mythique rappeur français que vous pouvez retrouver comme plein d'autres artistes sur la playlist de RFI, musique.rfi.fr, la meilleure adresse pour du bon son.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Julie Bertin, votre spectacle Libre Arbitre, vous le jouez déjà depuis un certain temps en France.
Oui.
Il continue de tourner, région parisienne, mais pas que. Vous rencontrez donc un public français qui découvre peut-être en partie l'histoire de Caster Semenya, notamment des jeunes. Vous faites des scolaires, hein, comme on dit, des représentations devant des lycéens, je crois, avec lesquels vous discutez même après la pièce. Et quelles sont leurs réactions à eux ? Là, on a entendu la perception de Semenya en Afrique du Sud et en France, et particulièrement chez les jeunes.
Ben effectivement, c'est toujours des séances assez émouvantes et réconfortantes, je dirais. La plupart du temps, ils découvrent, mais d'ailleurs comme les adultes, ils découvrent cette histoire qui est trop peu connue encore en France. Et ce que nous racontent donc les collégiens ou les lycéens lors des bords plateaux, donc après la représentation, ils nous font quand même part de leur sentiment d'injustice. C'est ça qui les frappe. Et ce qui moi me frappe en l'occurrence lors de ces moments, c'est parce que ça nous arrive souvent, voilà, en tant que quand on présente des spectacles, d'avoir des bords plateaux et de constater que bien souvent les personnes qui osent prendre la parole publiquement, parce que c'est quand même pas rien, surtout pour des jeunes, ce sont souvent les garçons qui en premier lieu lèvent la main, posent leurs questions. Et là, systématiquement, ce sont les adolescentes qui osent les premières lever la main et poser des questions ou tout simplement nous livrer leurs impressions, leurs remarques. Et les jeunes garçons qui écoutent et qui ensuite, à leur tour, prennent la parole, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi beau de voir que ce spectacle, elle, encore une fois, interroge la condition féminine, le rapport au corps des femmes et que ça libère aussi la parole.
Merci beaucoup, Julie Bertin, d'avoir été avec nous dans Mondial Sport, Libre Arbitre, votre spectacle consacré à Caster Semenya. Les prochaines représentations, au cas où certains de nos auditeurs passeraient par la France.
Mais avec plaisir, à Vernouillet, mardi, le 4 avril, à Suresnes, donc en Île-de-France. Et puis, on sera, il y a le site de la compagnie Le Grand Chelem, donc la compagnie de Léa Gérardet, sur lequel il y a toutes les dates. On passe donc un petit peu partout en France et y compris en Suisse.
Claire Bargelès, à Johannesburg, vous avez vu une captation vidéo du spectacle qui ne tourne pas encore en Afrique du Sud. Il ferait un carton,
très
probablement.
Oh là là, on aimerait tellement.
Et vous le recommandez, si jamais vous croisez des francophones?
Complètement. Je pense que ça résume très très bien toutes les questions autour de cette affaire.
Merci à vous également, Claire Bargelès, d'avoir été avec nous dans Mondial Sport. Et merci à Olivier Roux et Rémi Vivien qui étaient à la réalisation ce samedi. Mondial Sport revient demain dimanche 31 mars pour un débat. La France est-elle un pays de sport? Le futur pays hôte des Jeux Olympiques est-il un pays de sport? Vaste débat, vaste question, plusieurs intervenants pour tenter d'y répondre. Dans un instant, le retour de l'actualité sur RFI avec un journal international, Nicolas Brousse à la présentation. Et pour nos auditeurs qui se trouvent en Afrique de l'Ouest, de l'information en langue mandingue. Excellente soirée à toutes et à tous sur RFI.